France Culture.
Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Embrasement, le mot qui fait peur en Syrie et au Cachemire. En Syrie, avec la peur de massacres interconfessionnels, les Druzes se retrouvent sous le feu de certains groupes armés liés au pouvoir. Des frappes israéliennes ont également eu lieu à Damas. Nous irons au Cachemire. Les armées indiennes et pakistanaises continuent d'échanger des tirs. L'Inde se livre à des représailles 10 jours après l'attaque au Cachemire indien qui a fait 26 morts. En France, 21 personnes présentées au juge d'instruction après les actions d'intimidation contre les prisons et le personnel pénitentiaire. L'un des principaux suspects fait partie de la DZ Mafia. Anne Fouquemberg nous en dira plus. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, va recevoir la famille d'Aboubacar Cissé 10 jours après le meurtre de ce jeune Malien dans une mosquée dans le Gard. La place Beauvau dément avoir tardé à réagir dans cette affaire, nous dira Rosalie Lafarge. Et d'abord une amende, elle concerne TikTok. L'Union européenne reproche au réseau social d'avoir transféré en Chine des données personnelles relatives à ses utilisateurs européens. La plateforme chinoise est dans le viseur des gouvernements occidentaux qui redoutent son lien avec Pékin et le possible usage des données des utilisateurs à des fins éventuellement politiques, espionnage ou propagande. Eh bien, ce matin, l'autorité irlandaise de protection des données qui agit au nom de l'Union européenne, car le siège européen de TikTok est en Irlande, eh bien, cette autorité irlandaise, donc, inflige une amende de 530 millions d'euros, l'une des plus importantes de cet organisme. TikTok se voit sommé de mieux protéger la vie privée de ses abonnés. À Bruxelles, Fabien Cazot.
Les données personnelles d'utilisateurs européens ont-elles été transférées sur des serveurs informatiques en Chine? Oui, répond le régulateur européen, au moins pour une partie. La découverte date de février, ne concernait qu'une quantité limitée de données qui ont depuis été supprimées. Mais rien ne prouve que même pour les données stockées en Europe, elles ne soient pas consultables depuis la Chine par des cadres de TikTok, de sa maison mère ByteDance, voire directement par le gouvernement chinois. TikTok, qui compte faire appel de sa condamnation, nie fermement toute exfiltration de données européennes en direction de la Chine. La plateforme affirme s'être conformée aux réglementations de l'Union européenne. Surtout, elle répète avoir pris des mesures permettant des contrôles indépendants sur les flux de données personnelles en provenance d'Europe, normalement stockées en Europe ou aux États-Unis. C'est la deuxième fois en 2 ans que TikTok est épinglé pour sa gestion des données personnelles. Le même régulateur européen l'avait condamné en 2023 à une première amende de 345 millions d'euros pour non-respect de la vie privée des enfants.
L'an dernier, le Congrès américain a voté une loi qui impose à ByteDance de céder le contrôle de TikTok sur le territoire américain. Donald Trump a repoussé la date limite au 19 juin. La décision européenne pourrait accroître la pression qui existe sur TikTok. Cet après-midi, la présidence syrienne condamne la frappe israélienne près du palais présidentiel à Damas. Une frappe menée à l'aube en guise d'avertissement contre toute atteinte à la minorité druze. Une dangereuse escalade, avertissent les autorités syriennes. Depuis plusieurs jours, des combats entre milices liées au pouvoir et combattants druzes ont fait plus de 100 morts. Un influent chef druze s'en est pris hier au pouvoir d'Armada al-Sharaa et réclamait une intervention internationale, en clair, celle d'Israël, protecteur de la minorité druze. La minorité druze qui se trouve aujourd'hui prise entre deux chaises, Noé Pignède.
Si les Druzes syriens condamnent tous d'une même voix les attaques contre leur communauté et disent craindre de nouveaux affrontements avec les milices djihadistes, ils dénoncent aussi l'intervention d'Israël, qui assure pourtant vouloir leur venir en aide. Walid, 32 ans, nous envoie ce message depuis Damas.
La plupart des gens ici considèrent Israël comme une puissance occupante, donc on n'attend aucune aide de leur part. Pire, ils nous mettent dans une position où certains vont croire qu'on les soutient, alors que ce n'est pas le cas.
Depuis la chute de Bachar el-Assad, Israël multiplie les bombardements et les incursions terrestres en Syrie. Son armée occupe désormais certains villages. Benjamin Netanyahou dit vouloir établir une zone tampon à sa frontière. Et le premier ministre israélien exige aussi la démilitarisation totale du sud de la Syrie, où vivent une grande partie des Druzes, comme Ziad, 38 ans.
Israël fait juste ça pour servir ses intérêts. C'est un État terroriste et ça ne sera pas notre sauveur. Nous n'avons besoin de la protection de personne. On peut se protéger nous-mêmes.
Sur le plateau du Golan, 22 000 Druzes syriens vivent déjà sous occupation depuis 1967. Ziad dit craindre qu'Israël veuille étendre encore son territoire jusqu'à sa ville de Souaïda.
Noé Pignied, la situation est toujours extrêmement tendue entre l'Inde et le Pakistan 10 jours après l'attaque qui a coûté la vie à 26 civils au Cachemire indien. New Delhi tient Islamabad pour responsable. Pour la 8e nuit consécutive, des échanges de tirs ont eu lieu entre l'armée indienne et pakistanaise le long de la ligne de contrôle. La ligne de contrôle, c'est la ligne de cessez-le-feu entre les deux pays depuis 1949 et qui divise le Cachemire sur près de 800 km. L'armée indienne multiplie les représailles. Kumbastin.
Un silence lourd règne à Pulwama, au sud du Cachemire. Le 26 avril, les forces de sécurité indiennes sont intervenues dans ce village où un habitant est soupçonné d'être lié à l'attentat. De nombreuses maisons ont été dynamitées et leurs occupants vivent depuis dans les ruines.
L'armée est arrivée à 7h du matin et ils nous ont conduits à la mosquée. Lorsque nous sommes revenus, beaucoup de maisons étaient en ruine. S'il y avait un militant impliqué, pourquoi s'en prendre à tous les voisins ?
Abdul Rachid, 68 ans, a tout perdu lors de cette opération de représailles indiscriminée. Une méthode courante en Inde, bien qu'en dehors de tout cadre légal, elle marque les esprits.
Ils ont fait exploser notre maison, même la mosquée tremblait. On a eu très peur. Certains habitants se sont évanouis, il a fallu de l'eau pour les ranimer. Beaucoup se sont mis à pleurer.
Depuis que l'Inde a désigné le Pakistan comme responsable de la tuerie du 22 avril, beaucoup d'Indiens jugent que la priorité est de punir leurs voisins. Les Cachemiris, eux, voient revenir dans l'indifférence leur pire cauchemar, être pris entre les feux des groupes militants et de la répression de l'armée. Azina, mère de famille de 42 ans.
S'ils nous avaient prévenus, on aurait peut-être pu sauver certaines choses. Ils transforment cet endroit en Palestine. C'est une injustice totale.
Au-delà du Cachemire, des musulmans de toute l'Inde sont ciblés par des appels à la haine depuis l'attentat.
Le Cachemire pakistanais a appelé aujourd'hui ses habitants à stocker de la nourriture pour 2 mois. C'était il y a un peu plus de 6 mois. Après de fortes pluies en amont, plusieurs cours d'eau sortaient de leur lit dans la région de Valence, en Espagne, et inondaient des dizaines de communes. 228 personnes sont mortes. Depuis, la région tente de mettre les bouchées doubles pour reconstruire ou bien pour remplacer les 120 à 140 000 voitures détruites par les eaux. Les véhicules sont l'un des premiers problèmes à avoir été réglés. Les indemnisations et le besoin d'un moyen de transport ont provoqué une petite ruée sur les voitures. Reportage à Valence de Mathieu Taillac.
Au salon de l'auto d'occasion de Valence, il y a plus d'affluence que l'an dernier, mais moins de monde qu'au salon de la voiture neuve en décembre. Il faut dire que les aides publiques ont été généreuses. Le fonds d'indemnisation des assurances, qui dépend de l'État, rembourse 120% de la valeur de l'Argus. Et la région ajoute une prime à l'achat allant de 2000 euros pour une hybride d'occasion à 10 000 pour une toute électrique neuve. Et l'on envoie des voitures neuves dans les rues des communes dévastées et sur le périphérique de Valence. Jesús Domingo est le directeur général du concessionnaire Turbo Manises.
Les gens continuent d'acheter, notamment parce que les aides ont mis du temps, 2 ou 3 mois à arriver. Mais de moins en moins, 75 ou 80% des gens qui devaient acheter ont acheté. Quand on regarde les ventes, on voit que ça baisse à chaque mois. On a passé le pic, il doit nous rester 2 mois. Et tout le monde n'achète pas neuf. L'âge moyen de la voiture espagnole est de 14 ans et demi. Tout le monde ne peut pas se permettre de mettre 20 000 euros dans une voiture.
Angel et Juan font partie de ce que les vendeurs appellent les clients inondation.
Moi, j'ai perdu une voiture, elle avait un certain âge, mais c'était une grande et une bonne voiture.
On est venu regarder, ce n'est pas le moment d'acheter. On n'a pas le budget pour une voiture. Les prix ont augmenté avec l'excuse des inondations, autant sur le neuf que sur l'occasion.
Le couple s'inquiète de bien recevoir l'indemnisation de l'assurance à temps pour acheter avant que la prime ne se termine le 30 juin prochain. Juan Carlos, lui, n'a pas perdu son véhicule. Il est venu au cas où il trouve une bonne affaire.
Sur les sites de petites annonces, on voit la différence entre l'avant et l'après. Ça a augmenté entre 5 000 et 10 000 euros. Le même modèle qui avant coûtait 2 000, à présent vaut 8 000. Ils en profitent, clairement.
Les vendeurs répondent que si les prix augmentent, cela n'a rien à voir avec la catastrophe. La croissance des transactions, elle, est indéniable et a un impact sur les chiffres nationaux. En janvier et février 2025, les ventes de voitures ont augmenté en Espagne de 9% par rapport à la même période en 2024.
Mathieu de Taillac. Les députés viennent d'adopter en commission la proposition de loi créant un droit à l'aide à mourir assorti de strictes conditions. Le texte d'Olivier Falorni, soutenu par la majorité des représentants de la gauche et des groupes macronistes, permettrait aux malades souffrant d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale et ne supportant plus leur souffrance de recevoir ou de s'administrer une substance létale. Après le coup de filet de ce début de semaine dans l'enquête sur les actions contre les prisons et le personnel pénitentiaire, 21 suspects sont présentés à des juges d'instruction aujourd'hui en vue de leur mise en examen. La piste des narcotrafiquants est désormais confirmée. Incendie de voiture, tir à la Kalachnikov ou de mortier sur les prisons, tag, menace et un sigle, DDPF. DDPF pour défense des prisonniers français, le mouvement qui a revendiqué de nombreuses actions donc menées contre la pénitentiaire, selon la Junalco, la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée en charge des investigations. Parmi les mises en cause figure celui qui est susceptible d'être le créateur du premier compte Telegram intitulé DDPF. Et donc ce suspect, Anne Fauquemberg, est un détenu proche de la DZ Mafia.
Selon la Junalco, ce détenu a déjà été condamné pour des faits de droit commun et il est sur le point d'être jugé pour des faits en lien avec le narco-banditisme. Nos confrères du Parisien, Jean-Michel Décugis et Vincent Gautronneau, qui ont documenté dans le livre « Tueur à gages » les méthodes d'action de ce clan de la DZ Mafia, indiquent que cet homme faisait partie d'une équipe de tueurs présumés suspectés d'une fusillade en juin 2023 à Marseille. Dans cette équipe, il était chargé de faire disparaître ou de stocker les véhicules des tueurs, d'où son surnom de Monsieur Propre. Il ne ferait pas partie de l'encadrement de la DZ Mafia, mais aurait vraisemblablement servi de relais et de logisticien dans cette vaste opération d'intimidation contre la pénitentiaire. Une séquence dont le mode opératoire est désormais bien connu des spécialistes de la criminalité organisée, un mot d'ordre lancé sur Telegram, des offres d'action diffusées et relayées sur les réseaux sociaux et des exécutants recrutés moyennant rémunération. C'est ce que détaille également la juridiction dans son communiqué. Une affaire qui montre aussi l'ultra-rajeunissement de la criminalité organisée puisque deux mineurs sont également mis en cause. C'est un phénomène général en Europe, documenté par Europol dans son dernier rapport. Les gangs recrutent sur les plateformes en ligne de très jeunes personnes pour échapper aux autorités et aux législations avec des missions de plus en plus violentes.
Y a-t-il eu des dysfonctionnements liés aux affaires Pellico ? Gérald Darmanin a missionné l'inspection générale de la justice pour savoir pourquoi des investigations n'avaient pas été lancées en 2010 après l'identification de l'ADN de Dominique Pellico dans une affaire de viol. Dominique Pellico a été condamné en décembre à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir drogué sa femme Gisèle pour la violer et la livrer à des dizaines d'inconnus à Mazan entre 2011 et 2020. Lors du procès, il était apparu qu'il avait été interpellé en 2010 dans un centre commercial en train de filmer sous les jupes des femmes. Son ADN avait été prélevé. Quelques mois plus tard, il avait fait l'objet d'un rapprochement avec une trace prélevée dans une affaire de crime avec viol ainsi qu'une tentative de viol. Bruno Retailleau va recevoir la famille d'Aboubacar Cissé. Ce sera lundi, 10 jours après le meurtre de ce jeune Malien de 22 ans dans la mosquée de la Grand Combe dans le Gard. Le ministre de l'Intérieur va s'entretenir avec une partie des proches de la victime en présence de représentants du Haut Conseil des Maliens de France. Ça ne suffira probablement pas à faire taire les critiques de la gauche qui continuent d'accuser le ministre d'avoir réagi trop tard et de ne pas avoir voulu, dans un premier temps, recevoir cette famille. Ce que la place Beauvau dément, Rosalie Lafarge.
Bruno Retailleau l'assure, il est l'un des premiers à réagir au meurtre d'Aboubacar Cissé. Sur les réseaux sociaux, il écrit dès le jour des faits, bien avant beaucoup à gauche, siffle son entourage, convaincu que les insoumis, eux, ont attendu de savoir si l'auteur des coups de couteau était ou non musulman avant de faire part de leur effroi. Et autour du ministre, on s'efforce de contrer le discours de la gauche. Non, il ne s'est pas rendu trop tard dans le Gard, il y était 48 heures après les faits. Les informations côté enquête ne le rendaient pas opportun avant. Non, il n'a pas refusé d'aller à la mosquée, on nous a fait comprendre que ce n'était pas idéal, avance encore un conseiller. Et non, Bruno Retailleau n'a pas ignoré la famille parce que la victime était en situation irrégulière, mais parce qu'Aboubacar Cissé était en situation irrégulière, il n'a pas été évident d'identifier rapidement ses proches, plaide toujours l'entourage du ministre. Dès qu'ils l'ont été, Bruno Retailleau a fait savoir qu'il se tenait à leur disposition. On fait toujours comme ça, assure un habitué du ministère. Mais en parallèle, des représentants d'institutions musulmanes dénoncent un climat islamophobe ambiant, souvent relayé sans réserve grave par certains responsables politiques. L'un des avocats de la famille, Cissé, regrette la non-qualification en attaque terroriste et y voit une différence de traitement entre citoyens. Une partie de la gauche dit la même chose depuis plusieurs jours et continue d'appeler à la démission du ministre de l'Intérieur. Lui répond instrumentalisation et promet de ne pas se laisser intimider.
Rosalie Lafarge, orthographe, sujet sensible, sujet politique. La région PACA refuse de verser la subvention accordée à l'école de cinéma Courtrajmé à Marseille, créée par le réalisateur des Misérables, Ladjli, pour les deux prochaines années. En cause, les communications de l'école en écriture inclusive sur son site, son compte Instagram. Un refus qui pourrait priver l'école d'insertion professionnelle dans l'audiovisuel de 75 000 euros sur les deux prochaines années. Le RN local s'en est immédiatement félicité. Mélanie Kusielevitch.
C'est une victoire, s'est réjoui sur X la semaine dernière le RN PACA. Le groupe politique combat depuis des années l'écriture inclusive qu'il qualifie d'étendard de l'idéologie woke contre laquelle la région s'est engagée. En juin 2023, l'ensemble des conseillers régionaux ont voté une motion du RN contre ce procédé. Position confirmée par un plan adopté en avril dernier, porté par le président de la région Renaissance, Renaud Muselier. Aujourd'hui, Marie-Antonelle Joubert, la directrice de l'école Courtrajmé Marseille, se dit consternée.
On est être effaré et être dépité. J'ai l'impression que Renaud Muselier est quand même pris en otage par l'URN. Ou alors que c'est le choix de Renaud Muselier, mais j'espère que je me trompe, de se dire je vais couper 75 000 euros, donc peanuts, hein, de subventions en innovation pédagogique à une asso qui met des jeunes Marseillais au travail, qui les fait bosser sur toutes les séries télé, tous les films, qui envoie des films en festival aux États-Unis, etc., pour une écriture inclusive sur ses sites web.
Le retrait de cette dotation pourrait priver d'aide à la formation une quarantaine d'étudiants en situation de précarité pendant 2 ans. Mais le but n'est pas d'asphyxier l'école, répond l'entourage de Renaud Muselier. L'utilisation de la langue française, c'est le respect des règles fondamentales de la République, insiste-t-il tout de même, mais la porte reste ouverte à la discussion. La directrice de l'école Courtrajmé, qui a demandé un rendez-vous avec le président de région, espère pouvoir le rencontrer dans les prochains jours pour clarifier la situation.
Mélanie Kusielevitch. Arrêtons-nous un instant sur la bronchiolite, cette épidémie qui chaque année touche des milliers de nourrissons et certains devant même être hospitalisés. Un traitement, le Befortus, empêche ou limite l'infection par le principal virus à l'origine de la maladie. Guillaume Fariol, une étude publiée dans la prestigieuse revue médicale The Lancet confirme l'efficacité du Befortus.
Oui, les auteurs ont compilé les résultats de 27 études menées pendant l'hiver 2023-2024 en France, Italie, Luxembourg, Espagne et aux États-Unis. Résultat sans appel, le Befortus administré aux bébés pour les immuniser contre le virus responsable de la bronchiolite. Ce Befortus diminue très nettement les risques. Concrètement, c'est un anticorps qui empêche le virus respiratoire de pénétrer dans les cellules. Le traitement fait chuter de 83% en moyenne le risque d'hospitalisation, 81% les admissions en soins intensifs, 75% les cas d'infection, le tout chez les enfants d'un an ou moins. Selon ces résultats, le traitement semble un peu plus efficace pour les bébés de moins de 3 mois que pour les autres. L'étude montre aussi quelques disparités selon les pays. 76% d'hospitalisation de moins en France contre 93% aux États-Unis. Sans doute parce qu'outre-Atlantique, les bébés les plus fragiles, les plus à risque, ont été traités en priorité faute d'approvisionnement suffisant.
Guillaume, ce traitement en France, lancé en 2023, a déjà évité des milliers d'hospitalisations.
Oui, et ça c'est le résultat de 2 études de l'Institut Pasteur et de Santé publique France menées pendant le premier hiver de déploiement du Befortus dans notre pays, hiver 2023-2024 donc. Le traitement de Sanofi et AstraZeneca a évité entre 75 et 80% des hospitalisations en réanimation. 5800 hospitalisations pour bronchiolite évitées selon ces modélisations. Le Befortus qui se déploie peu à peu en France, 600 000 doses disponibles l'hiver dernier, plus du double de l'année précédente.
Guillaume Fariol, un mot du temps de demain. Sans surprise, dégradation orageuse de la Bretagne, Hauts-de-France et le Grand Est. Du Languedoc-Roussillon jusqu'aux Alpes et en Corse, le ciel sera également très nuageux avec quelques ondées possibles, des averses un peu plus marquées ensuite et parfois orageuses.
Au sud de la Loire, jusqu'au nord de la Nouvelle-Aquitaine, les périodes ensoleillées resteront toutefois prédominantes. Les températures maximales en légère baisse avec 17 à 22 degrés sur les Hauts-de-France ou les régions proches de la Manche. Elles atteignent encore 23 à 28 degrés sur la moitié sud. Ce journal est désormais terminé. Élise Leu à la technique.